Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
On parle beaucoup de protection animale, est-ce qu'on peut encore agir aujourd'hui ?
Je pense qu'il est temps d'agir, parce que si les hommes continuent à martyriser comme ça les animaux, d'abord je trouve que c'est ignoble, complètement en dehors du fait qu'un homme ne devrait pas se permettre de faire ça, c'est pas parce qu'un animal ne peut pas lui répondre, ne peut pas écrire et se plaindre, on a le droit de faire ce qu'on fait.
Salut, c'est Thomas Rozek. Il y a quelques temps, nous vous avons proposé un épisode qui revenait sur le coût social, humain, économique et écologique de la viande. Et une question en filigrane traversait nos réflexions, celle de la souffrance animale. C'est devenu quasiment un classique des indignations numériques, depuis notamment que l'association L214 suscite régulièrement la sidération en publiant des vidéos souvent à la limite du soutenable. Ça a encore été le cas ces derniers jours avec des images de vaches à hublots qui n'ont pas manqué de faire polémique. Alors au-delà de ce cas spécifique qui est plus complexe qu'il n'y paraît, il n'en reste pas moins que la question de la condition animale a su se rendre très visible, médiatiquement au moins, et même politiquement. On a pu le voir par exemple lors des récentes élections européennes où le parti animaliste français et son affiche violette présentant un joli petit chien ont récolté 2,2% des voix, soit plus que la liste de Florian Philippot, plus que Lutte ouvrière et presque autant que le parti communiste. Ça nous a donné envie de savoir qui pouvaient bien être les électeurs de ce parti dont on n'avait clairement pas pressenti l'impact. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Je dois reconnaître que la vision de tous les animaux travaillant la pâte dans la pâte pour bâtir une meilleure forêt des plus étonnantes.
Comme il était un peu tard pour se lancer dans un micro-trottoir à la sortie des urnes, on s'est dit que finalement, le plus simple pour tenter d'avoir un début de réponse à notre question, et même si on compte pas prendre l'habitude d'inviter des politiques dans ce podcast, c'était de la soumettre directement aux intéressés, à savoir le parti animaliste, parti qui est très actif en ce moment dans la presse puisque ses dirigeants ont déposé un recours auprès du Conseil d'État pour dénoncer des dysfonctionnements lors des européennes, dysfonctionnements qui auraient selon eux empêché les électeurs d'avoir accès à leurs propositions, voire dans certains cas très concrètement d'avoir accès à leur bulletin de vote. Malgré tout, comme un certain nombre de ces bulletins justement se sont tout de même retrouvés dans les urnes, on a invité la coprésidente et porte-parole du parti, Isabelle Dudouette-Bersejet, à venir nous voir pour lui demander donc si elle savait qui les animalistes avaient séduit.
En fait, c'est vraiment difficile de répondre parce que déjà, on s'aperçoit qu'ils sont autant en rural qu'en ville. Également au niveau de l'âge, alors si on se réfère, nous, à l'âge de nos candidats, on va prendre. Donc, nos candidats allaient de 19 ans à 73 ans. Toute catégorie sociale, ça allait de la personne en recherche d'emploi à un énarque. Enfin, on a vraiment un panel, on va dire, de représentativité qui est vraiment le reflet de la population française. Et en fait, c'est très clairement une large population. Alors, bien sûr, on va retrouver éventuellement des personnes végétariennes ou véganes, mais on va retrouver également les personnes qui ne le sont pas, mais qui sont, encore une fois, révoltées par le traitement réservé aux animaux en France. Les scandales se multiplient dans les médias sans cesse, que ce soit dans les élevages, les abattoirs. On peut regarder les personnes personnalités qui nous ont soutenus. Donc, bien sûr, il y avait des universitaires, mais nous avions également des personnes comme Laura Smet, comme Laurent Baffy, Sylvie Rocard, qui était candidate également sur notre liste, donc, qui était l'épouse de Michel Rocard, donc l'ancien Premier ministre. Et on voit bien qu'ils se situent pas au même niveau, en fait. Mais tous ont un point commun, c'est l'écœurement des mauvais traitements et des maltraitances purement intentionnelles que l'on inflige en France sans que rien ne bouge.
Et je me demande dans quelle mesure le parti que vous représentez bénéficie de la décomposition, on va dire, des structures politiques classiques établies depuis plus de 50 ans, de la destruction progressive des grands partis de droite et des grands partis de gauche. De quelle manière ça a pu jouer en faveur, d'après vous, du score du Parti animaliste ?
En tout cas, ce qui est certain, c'est que au niveau des abstentionnistes, le score annoncé initialement était de l'ordre de 60% de mémoire pour ces élections. Et surtout, on voit que scrutin après scrutin, quel que soit le type d'élection, le nombre d'abstentionnistes augmente. On a finalement eu 50% d'abstentionnistes, qui fait malgré tout 1 sur 2 rester chez lui. Mais ce que l'on sait au niveau du parti animaliste, c'est qu'en fait, on a un certain nombre d'électeurs qui faisaient partie des abstentionnistes. Et ils nous l'ont dit. Certains se sont inscrits sur les listes électorales pour voter pour nous. D'autres n'avaient jamais voté de leur vie parce que, justement, ne trouvant pas d'offres pertinentes selon eux. Et peut-être aussi, certains se disent, bon, de toute façon, quel que soit le vote, qu'est-ce que ça change au final ? Donc là, au moins, je vais exprimer, que ma volonté, que les décideurs politiques s'emparent de cette question animale, et il est temps aujourd'hui de rentrer dans le 21e siècle. Et le parti animaliste, en fait, ce qu'il propose, c'est de repenser le lien humain et animaux. Et donc, c'est une société nouvelle et beaucoup plus, on va dire, ouverte et accueillante pour tous. Et donc ça, c'est un message vraiment porteur d'espoir, ce qui fait que même des abstentionnistes ont repris le chemin des urnes, en fait, pour voter pour le parti animaliste.
J'avais une autre question sur les aspects de communication du parti. On a lu pas mal de choses, notamment sur le net, sur le succès qu'a pu avoir tout bêtement l'affiche du Parti animaliste et les choix graphiques qui ont été faits, et notamment la présence d'animaux, évidemment, sur ces affiches. Vous avez une idée, vous, de l'impact que ça a pu avoir concrètement dans les urnes, si ça a provoquer des votes, si ça a poussé des gens à voter pour vous ?
Oui, alors en fait, déjà pour les législatives, nous avions choisi une affiche qui ressemblait simplement, à l'époque, c'était un chaton blanc. Et plusieurs raisons au fait que l'on choisit un animal. D'abord parce que au niveau du parti animaliste, on considère que la cause que nous portons est plus importante que les candidats qui représentent cette cause. Donc ça, c'est vraiment important. En mettant un animal, immédiatement, on comprend l'enjeu. Par ailleurs, nous avions un besoin impératif de nous faire connaître puisque, encore une fois, l'absence dans les médias, enfin, dans tous les cas, une présence vraiment faible fait qu'il nous est vraiment difficile de nous faire connaître, en tous les cas jusqu'au scrutin. Mais depuis, il y a eu plus de médiatisation, mais les électeurs ne peuvent pas voter pour nous s'ils n'ont pas connaissance de notre existence. Donc avec une affiche qui interpelle, très voyante, hein, violet, la couleur du parti, mais c'est aussi très visuel, donc ça attire l'œil aussi. Et puis ce chien qui était le symbole puisqu'il s'agit d'un beagle, donc le symbole des chiens, certes de compagnie, qui peuvent subir des actes de cruauté, mais aussi ce sont des chiens utilisés pour l'expérimentation animale, et ils payent un très gros tribut en termes de souffrance pour l'expérimentation animale. Ce sont aussi des chiens utilisés en meute pour la chasse, qui passent la plus grande majorité de leur vie enfermés dans des petits chenils, donc derrière des grillages. Donc à tous ces niveaux, ce beagle était le symbole. Donc oui, forcément que des électeurs ont voté pour nous par rapport à ce beagle, puisque c'était l'objectif, c'était de nous faire connaître. Et sur cette affiche, on renvoyait à notre programme sur notre site internet qui était mentionné, je me permets de le rappeler, parti-animaliste.fr. Et de fait, les personnes interpellées par cette affiche pouvaient aller vérifier notre programme et à ce moment-là prendre la décision de voter pour nous.
Mais vous pensez vraiment qu'ils l'ont fait ou est-ce qu'ils se sont contentés de se dire « tiens, je vais voter pour le chien ». Je pose la question très simplement, mais j'avoue que l'idée, moi, m'a traversé l'esprit.
Ben, en fait, on peut imaginer qu'une bonne partie ont regardé le programme, mais peut-être aussi certains, peut-être étaient juste indécis, ne savaient pas pour qui voter, et mais peut-être aussi ça leur a rappelé, encore une fois, la position de la France vraiment extrêmement en retard par rapport à beaucoup d'autres pays sur la condition animale. Et ce que on peut quand même imaginer que des personnes n'ayant pas du tout d'affinité pour la cause animale n'ont peut-être pas, en tous les cas, ça ne doit pas être la majorité qui ont voté pour nous dans ce cas-là. Donc, la plupart du temps, certainement, ça a quand même rappelé quelque chose aux électeurs. Ce ne serait pas complètement abracadabrant que finalement, il l'ait fait en ce sens.
Est-ce que c'est réellement porteur d'un projet politique global, c'est-à-dire que là, c'est une question très précise, mais derrière, il y a la nécessité d'un projet politique plus global. Est-ce que le Parti animaliste compte s'engager dans cette voie-là derrière ou se concentrer sur cette question et devenir, on va dire, une proposition, enfin, rester une proposition d'appoint politique, pouvant potentiellement après porter des questions auprès d'autres formations qui, elles, seront au pouvoir ?
L'immense majorité de nos mesures touche en réalité bien d'autres domaines. Hein, si on prend par exemple la réduction parmi nos objectifs, donc nous fixons l'objectif de réduire la consommation de produits d'origine animale, donc viande, œufs, poissons, lait, de 40% d'ici 2030. Donc si c'était mis en œuvre, eh bien sûr, ça va profiter aux animaux, enfin c'est évident. Mais au-delà des animaux, ça va profiter au climat et on sait à quel point aujourd'hui c'est un enjeu majeur puisque la consommation de viande émet plus de gaz à effet de serre anthropique que les transports. Donc on est sur des mesures immédiatement applicables sans besoin de finances particulières, contrairement à bien d'autres projets pour le climat. Si on prend aussi les actes de maltraitance qui aujourd'hui peuvent quasiment se faire en toute impunité, eh bien, par exemple, le FBI, maintenant, considère comme un crime le fait d'opérer un acte de maltraitance sur un animal. Et ça a un impact sur la sécurité. Parce qu'en fait, de par ça, donc les personnes donc, étant des criminels sont intégrées dans des fichiers. Pourquoi ? Parce que, notamment, ils ont pu constater que 70% des adultes violents, exerçant des violences sur les humains, en réalité, se sont fait la main sur les animaux, notamment dans leur jeunesse. Donc, nous, quand on dit stop à la maltraitance animale, là encore, on va avoir un moyen d'agir sur la violence envers les humains. Donc, c'est une société vraiment plus pacifique qui s'offre à nous, en fait. Hein. Et ça, c'est vraiment un projet enthousiasmant, on peut dire.
Tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis. Du lion à la colombe, du renard au whist.
Histoire d'élargir un peu notre réflexion, nous avions envie d'entendre quelqu'un qui suit de manière globale les différents mouvements liés à la cause animale. Des mouvements plus ou moins radicaux d'ailleurs, puisque c'est une composante importante. La presse se fait régulièrement l'écho d'actions choc menées par des groupes très remontés. Ça a été le cas encore début mai avec l'agression très commentée d'un boucher bio par des militants antispécistes sur un marché parisien. Ces groupes aux ambitions et moyens d'action plus ou moins violents, Eddy Fougier les scrute de près, il est politologue, il enseigne notamment à Sciences Po, à Aix-en-Provence. Et au téléphone, je lui ai demandé comment il analysait le score du parti animaliste.
Alors, je pense qu'il y a deux façons d'interpréter ce résultat, les 2,2% et puis le fait qu'il soit quasiment à parité avec la liste communiste ou la liste UDI. Il y a effectivement cette sensibilité de plus en plus importante des Français vis-à-vis du bien-être animal, des animaux en général. Et puis sans doute aussi qu'il y a un facteur hors animal, le fait que il y ait une défiance vis-à-vis des principales figures politiques, des principaux mouvements politiques, et que finalement c'est une sorte d'alternative à l'abstention exprimée par certains Français, sans aucun doute. Donc il y a effectivement cette sensibilité animaliste, et puis le fait de vouloir faire un peu de la politique autrement, et qui s'incarne sur un sujet très spécifique, au demeurant sympathique avec ce petit chien ou ce petit chat sur l'affiche. Et on le voit dans les témoignages qui ont pu être faits après l'élection, où des individus ont décidé, même en entrant dans le bureau de vote, de voter pour ce parti différent, je dirais.
Est-ce qu'on a une idée de qui sont les électeurs du Parti animaliste ? Est-ce qu'on a déjà un petit peu un espèce de portrait qui se dessine de ces électeurs ?
Alors, le problème, c'est qu'effectivement, ils sont assez peu nombreux et surtout qu'on n'a pas anticipé nécessairement la réussite de ce parti. Et donc, on a peu d'éléments. À ma connaissance, on n'a pas d'études exhaustives sur qui a pu voter pour les animalistes. D'autant que, par exemple, un point de détail, c'est à Paris qu'on a le moins voté pour les animalistes, alors qu'on pouvait supposer que ça pouvait être un vote un peu bobo parisien pour être dans la caricature.
Est-ce que c'est aussi le signe peut-être d'une sortie de ces thématiques, d'une forme de marginalité ? C'est-à-dire que pendant longtemps, on a présenté les défenseurs de la cause animale soit comme des doux rêveurs, soit comme des excités. Est-ce que c'est aussi le symbole, le signal quelque part que ces territoires politiques-là touchent de plus en plus de monde ?
Sans doute, mais c'est aussi la volonté d'un certain nombre d'acteurs de politiser la question animale. On a pu le voir dès 2016 avec la volonté de la part d'associations de protection des animaux de faire pression sur les candidats avec la création d'un collectif animal politique. À la fin de l'année, il y a eu donc la création du parti animaliste. Donc il y a cette volonté du côté de ces acteurs de faire en sorte de peser sur le débat politique. On le voit aussi du côté des acteurs politiques traditionnels. Je dirais un coup d'entrée assez facile auprès des Français en soutenant des sujets qui sont, je dirais, spontanément, qui attirent spontanément la sympathie des Français. Et tout le monde est pour les gentils toutous et les petits chats.
Vous voyez cette petite tache là ? Eh ben c'est Roméo. Roméo, il a 2 mois. C'est un petit bébé chat roux qui est absolument trop craquant quand il fait dodo.
Et on le voit bien du côté, par exemple, de Marine Le Pen, la volonté de politiser ces questions. Donc, je dirais, c'est la rencontre à la fois du côté du monde associatif et du côté des politiques dans un contexte où, encore une fois, la question de la sensibilité des animaux est de plus en plus au cœur des débats, puisqu'elle a été reconnue par l'amendement Glavany en 2014-2015, et dans un contexte européen aussi, parce qu'on voit beaucoup de partis animalistes dans d'autres pays européens, des élus, il y a eu à ma connaissance 3 élus animalistes au Parlement européen, et c'est du côté de l'Union européenne qu'il y a eu pas mal aussi de reconnaissance de la sensibilité des animaux. Donc c'est un ensemble qui explique cette politisation récente de la question animale.
Vous vous êtes beaucoup intéressé, vous, aux mouvances les plus radicales de la cause animaliste ou de la cause végane. Qu'est-ce qu'ils disent, eux, de cette incarnation politique de ce qui pouvait être jusqu'ici leur précaré, on va dire ?
Ce qu'on peut lire du côté des plus radicaux, effectivement, c'est une forme de dédain pour le parti animaliste. Là, il n'y a pas nécessairement, ils font pas nécessairement cause commune avec ce parti. Ce qu'il faut voir aussi au sein de cette mouvance animaliste radicale, des divergences très très fortes entre des courants qui sont des associations d'information, de sensibilisation comme L214, des mouvements plus radicaux qui prônent ouvertement des actions de désobéissance civile. Et puis, comme par exemple 269 Life, ou des mouvements encore plus radicaux qui, eux, sont dans des actions violentes de caillassage, de boucherie ou d'intrusion dans des abattoirs pour libérer les animaux. Donc, il y a des divisions très, très fortes en termes de vision du monde, de ceux qui sont, pour aller vite, et pour rester un petit peu technique, dans une vision welfareiste,
du bien-être,
c'est l'idée d'améliorer la cause animale, et puis ceux qui sont dans une vision abolitionniste, qui veulent supprimer toute forme d'oppression, d'exploitation des animaux, et puis une division très forte entre ceux qui, en gros, sont dans une logique légale ou à la limite de la légalité et non violente, comme L214, et ceux qui sont prêts à entrer dans l'illégalité et à commettre des actions violentes vis-à-vis des biens, voire, dans certains cas, vis-à-vis des personnes, comme on a pu le voir dans ce marché avec ce boucher bio il y a peu de temps, au début du mois de mai.
Bon, clairement, le parti animaliste correspond plutôt, jusqu'à preuve du contraire, à la première catégorie, même si finalement, les deux branches qu'on évoquait à l'instant sont toutes les deux une forme de réponse à l'inaction politique, et on risque d'ailleurs très rapidement d'être confronté au même schisme du côté des questions environnementales, vu le peu de réactivité en la matière au sein de l'exécutif, mais c'est un autre sujet qu'on ne manquera pas de traiter prochainement. Merci à Isabelle Dudouet-Bersejet et Eddie Fougier pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.